En attendant, je vais vous dire, tantôt, j'ai demandé à Jean-Claude pour le faire croire de m'apporter cette statue-là. Et puis tantôt, on se demandait, cette statue-là m'avait été donnée. Puis on se demandait à quelle occasion, donnée par foi et par sage, à quelle occasion. Et je pense que c'était mon 40e anniversaire de vie religieuse. C'était en 97. Et la statue ici a été marquée c'est en 96, donc elle était faite un peu avant. Et c'était cette statue-là, ça représentait foi et partage. Et puis après ça, ben moi, je l'avais confiée à Yvonne Barthe. Et puis Yvonne l'a confiée à Jean-Claude, je pense. Là. Et puis, ben, je trouve ça intéressant de la retrouver ici. Puis j'avais jamais remarqué comment elle était belle. Et elle était très significative de ce qu'est foi et partage, de ce qu'on est au fond sur le monde. On est entre les mains de Dieu. Donc, pour moi, au moment de le faire croire, ça va être comme représentant, ça va représenter la vie de foi et partage. Et puis, d'une façon toute spéciale, la vie de foi et partage depuis 11 ans, parce que je n'étais pas là, puis il y a quelque chose de tout à fait spécial, de continuité. Donc, bon, est-ce que le problème technique est réglé? Rebonjour. On m'a demandé de parler un peu d'Haïti en général, et puis de parler d'Haïti, mais de façon peut-être plus personnelle. Qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que j'ai vécu? Ça va être un peu échevelé comme conversation parce que je peux pas passer d'un niveau à l'autre, mais d'abord vous parler d'une façon plus générale d'Haïti comme pays, comme situation économique, comme situation politique, puis aussi ce que je vois comme progrès, ce que je vois comme dirais lieu d'espérance, de confiance dans le pays en général, et puis aussi le travail que je fais. Donc, c'est un peu comme ça que je vais vous parler un peu. Donc, au niveau politique, je dirais que c'est peut-être le lieu d'une grande pauvreté. Il y a un nouveau président, le président Martelly, qui est un chanteur populaire il y a 20 ans, qui a été élu, mais qui a encore des qualités de chanteur, mais il n'y a pas aucune qualité d'homme d'État. Donc, il est capable d'organiser des fêtes, ça va bien, les gens sont bien contents, mais quand on regarde la situation du pays, elle n'avance pas beaucoup, d'autant plus qu'entre ce président-là, Martelly, et le Sénat, et les députés, comme ici, d'abord, il y a un Sénat et il y a des députés, Chambre des représentants. Il y a une chicane entre lui et puis ces deux parties-là, ces deux chambres-là, puis des fois, entre les deux chambres. Mais pour organiser un pays, il faut qu'il y ait de l'unité de la discussion, et puis on finit par s'entendre. Et ça a pris beaucoup de temps avant que, par exemple, le premier ministre, celui qui administre le pays, soit nommé. Et l'année dernière, ça a pris pendant 8 mois sur 12, il n'y avait pas de premier ministre. C'est un peu comme si le pays n'était pas gouverné. On ne savait pas où est-ce qu'on allait. Alors, cette année, c'est mieux depuis un an que le premier ministre. Il semble bien qu'il fait un beau travail. Mais reste que c'est toujours tiraillant s'il y a un premier ministre, mais il y a aussi des politiques ou c'est des comme sommes d'argent qui sont engagés. Alors, des fois, il y a des bâtons dans les roues. Donc, au niveau politique, à mes yeux, de Canadiens et de démocrates comme ici, on dit qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et puis, bon, il y a les anciens présidents qui sont là. Il y avait le fils de Duvalier, Jean-Claude Duvalier, qui lui-même a été président. Qui a été chassé vers l'Europe il y a 25 ans et qui est revenu. Alors que le président Préval était là encore dans ces derniers temps, il est revenu. Il voulais dire. Et puis, dans le temps du Vanille, dans le temps de papa du Vanille, il y a eu des. C'était très dur, c'était un dictateur, il y a bien du monde qui a été éliminé, beaucoup de professionnels des années 1960 se sont retrouvés au Canada parce qu'ils étaient chassés, ils avaient peur, ils avaient peur d'être tués. Et chez nous, il y a un jésuite, son père a été fusillé parce qu'il était officier. Donc cette période-là de Duvalier, c'est une période très difficile. Et quand le papa Duvalier est mort, le fils, qui était encore jeune, je me demande s'il avait 20 ans, c'est lui qui l'a remplacé. Dans les premières années, c'est plus la maman qui gérait le pays. Et les gens disaient, au moins, peut-être le fils va être meilleur. Mais à mesure que le temps avançait, il était aussi dur que son père. Au fond, ce n'est pas nécessairement une question de Duvalier, c'était la clique qui entourait le fils. Faisait qu'il était dur, on voulait se protéger, puis les gens ont été torturés et tués. Ce Jean-Claude a été chassé, il est revenu. Bon, on peut dire oui, il est revenu, et puis on lui reproche justement d'être associé au génocide, et puis on lui reproche d'être parti avec bien de l'argent de l'État. Mais il semble bien que ces procès-là, ça va prendre bien du temps et puis ça n'avancera pas beaucoup parce qu'il y a plein de complicités. Par exemple, le président Martelly, il y a un conseiller. Et le conseiller, c'est le fils de Jean-Claude Duvalier. Alors, mettez ça ensemble, puis on va dire, bien là, on dirait que tout est là pour que ça n'avance pas, hein, au niveau du procès. T'as aussi Aristide. Aristide aussi est revenu. Mais on n'a pas entendu parler de Duvalier depuis son retour, à peu près 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Comme s'il était très réservé, il semble bien qu'il a voulu mettre l'accent davantage sur l'éducation. Et puis, je pense qu'il y a des bienfaiteurs pour l'aider à organiser une université, semble-t-il, de bonne qualité. Donc, on n'a pas entendu, au niveau politique, on n'a pas entendu parler de lui, sauf il n'y a pas longtemps. Il a été convoqué à une cour à l'occasion d'un procès sur un journaliste qui était mort. Et puis bon, on l'a fait venir, mais au fond, il n'était pas beaucoup impliqué. Mais pour venir à la cour, il a quitté sa maison, et puis il est allé à la cour, mais il a été accompagné d'un cortège de partisans. C'est un peu comme système, une procession, on allait le reconduire, puis après ça, on est venu le reconduire chez lui. C'était des gens, des enthousiastes, des fanatiques d'Aristide. Ça veut dire qu'au fond, Aristide, c'est pas fort, c'est pas fini. Hein? Et les gens disent qu'il est en train de préparer les prochaines élections, il est en train de rebâtir son parti politique. Donc, on n'entend pas parler beaucoup aujourd'hui, mais peut-être qu'on va en entendre parler dans 2 ans, dans 3 ans, aux prochaines élections. Au niveau de la reconstruction, c'est très là. C'est davantage qu'on peut. Ce n'est pas des constructions d'édifices publics qu'on a. C'est des constructions d'édifices privés. Bon, ça a commencé par. On reconstruit des magasins, c'est pas mauvais. Puis après ça, on a reconstruit des maisons privées. Quand on dit qu'on reconstruit, c'est qu'on reconstruit en dur, là, en ciment, mais en ciment parasismique. Ça veut dire que ça met beaucoup de ciment, puis beaucoup de tiges de métal, ce qui coûte plus cher. Mais ça, c'était surtout des maisons privées. Cette année, ce qu'on a vu, c'est davantage des édifices publics, des écoles, en particulier des écoles de communautés religieuses. Parfois, c'est. Il y a eu une communauté, les Sœurs de Sainte-Anne, leur édifice a été reconstruit, et c'est quelqu'un de Taïwan, des gens de Taïwan, entre autres des bouddhistes, qui ont reconstruit, qui sont venus voir en Haïti. Qui est-ce qui pourrait aider? Puis finalement, ils ont regardé différents groupes d'écoles, puis ils ont dit, ça va être les Sœurs de Sainte-Anne. Là, maintenant, un édifice solide, une structure de métal et tout ça, puis ça a été payé par des bouddhistes, entre autres, par des bouddhistes. Ils ont voulu faire un peu de politique sur le bouddhisme, mais bon, les Sœurs de Sainte-Anne ont été plus réservées. Hein. Mais juste pour vous dire qu'il y a des choses, il y a ce collège-là, puis il y a 4-5 collèges de grandes qualité d'enseignement qui sont en train de monter. Les autres écoles, les écoles publiques, entre autres, sont encore dans des baraques en bois. Et les écrous édifices publics, là, par exemple, les ministères, différents ministères, et le Palais national, c'est encore, ils n'ont pas commencé à reconstruire. Il faut voir que le pays d'Haïti a été profondément touché par le tremblement de terre. On voit les édifices qui sont effondrés, ça c'est ce qu'on voit. Et ce qu'on oublie, c'est que la fonction publique, les fonctionnaires, une bonne partie des fonctionnaires sont morts. Donc, il y a toute une connaissance, une tradition qui meurt avec ces hommes-là. Puis aussi, les dossiers, l'informatique, tout ça, on part en dessous de zéro, là, non? Donc, il faut reconstruire une fonction publique, là, les traditions, et puis tout. Alors, il y a des édifices temporaires pour 4-5 ans, mais on n'a pas encore des édifices permanents. Probablement qu'ils vont commencer par construire des ministères. Puis probablement l'édifice le plus important, au fond le plus significatif, le Palais national, ça peut prendre un certain nombre d'années parce que ça va être l'édifice symbolique. On ne construit pas quelque chose en carré, puis non. Alors probablement que ça va prendre beaucoup de temps. C'est un édifice immense. C'était un édifice immense, très, très beau. C'était la fierté du pays. Je pense que ça vaut la peine de prendre du temps pour reconstruire ça. Mais c'est la même chose pour l'église de Port-au-Prince. Un grand nombre d'églises sont effondrées. La cathédrale s'est effondrée au moment du tremblement de terre. Et puis même l'archevêque, Mgr Mio, est mort au tremblement de terre. Mais il n'est mort pas écrasé pendant... Il était sur la galerie quand est arrivé le tremblement de terre, il a été projeté. Il est mort d'une fracture du crâne, et puis aussitôt après, ils l'ont découvert qu'il était mort. Hein. Mais l'édifice de la cathédrale est encore effondré. On voit encore des structures. Il y a quelque chose de très triste dans ça. La plupart des autres paroisses, des églises de paroisses, ont été démolies. Donc, ça fait un terrain, et puis il faut faire les activités paroissiales. Alors, dès le point de départ, on a commencé par faire des abris en toile et puis un endroit où la messe était protégée par du soleil, aussi protégée de la pluie. Puis, avec le temps, on a amélioré le système, c'est les toits de tôle, et puis on a mis c'est de plus en plus grand, de telle sorte que tu peux avoir comme ça un endroit où tu peux avoir 1500 personnes. 1500 personnes. Il y a quelque chose d'un peu camping dans ça. Les messes dans un camping, c'est très beau. Mais même les grands mariages solennels, les grands personnages, ont lieu là. Et les funérailles des grands personnages ont lieu là. Bon, c'est bien. Et je trouve ça bien intéressant qu'on se soit accommodé de lieux, mais la liturgie est toujours là. Et la liturgie est toujours vivant. Ça, c'est la richesse dans les paroisses. Et c'est que s'il y a de la liturgie vivante, c'est qu'il y a des groupes de jeunes de 15 ans, puis parfois ça commence 8 ans, 10 ans, 12, 15 ans maintenant, c'est la chorale, c'est le chiro, c'est le mèche, c'est les scouts, et puis chaque groupe est responsable de l'animation d'une messe. Vous allez dire, oui, ça comprend la chorale, mais l'animation de la messe par la chorale, c'est préparer le chant, mais c'est préparer les lectures, puis c'est comprendre les lectures, puis en fait, il y a une animation, une formation spirituelle donnée aux jeunes. Et c'est comme ça pour tous les groupes. Donc, à chaque dimanche, tu as la messe animée avec la musique, la guitare, le tambour, et puis les chants, le répertoire de chants. Je veux dire, on n'a pas besoin de carnet de chants. Les gens connaissent les chants par cœur. Hein? Ça peut avoir 10 couplets, puis bon, on connaît ça. Ah, il y a une vitalité, là. Mais les édifices ne sont pas encore construits. Il y a une chapelle, il y a une église, une des grandes églises, c'est l'église Sacré-Cœur. Le curé a eu l'idée, je vais écrire à tous les diocèses des États-Unis, puis dans tous les diocèses, il y a des églises qui s'appellent Sacré-Cœur. Alors il a dit, nous autres, notre église est effondrée, est-ce que vous pourriez nous aider, vous autres, les paroisses qui s'appellent Sacré-Cœur, à reconstruire. Je pense qu'il a fait une bonne relation, puis bon, L'île n'est pas construite, mais où il y a quelque chose qui nous embranche. Mais on ne peut pas reconstruire toutes les églises ensemble, ça coûte cher. Puis, quand il y a des donateurs, puis surtout l'église, la cathédrale. Donc, ça, c'est au niveau de la reconstruction. Quoi dire encore? Oui, il y a des améliorations. Quand je suis arrivé, c'était déjà une circulation absolument, absolument là, infernale. Ça allait dans toutes les directions. Maintenant, ça va mieux. Il y a des rues à sens unique. Puis il y a des flux de circulation qui finissent, qui fonctionnent par des panneaux solaires. Alors, des panneaux solaires très, très élevés qui reçoivent le soleil, puis qui chargent des batteries et qui font fonctionner les lumières. C'est très élevé pour éviter que ce soit volé. Et maintenant, il n'y a plus simplement des feux de circulation qui sont comme ça, tu as des panneaux, des lampadaires. Alors ça, c'est dans des rues importantes, puis même dans des autres endroits, les parcs, tu as des lampadaires avec des panneaux solaires. Puis le soir, ben, la lumière s'allume. Si dans la journée, il y a eu des nuages, ben, le soir, la lumière s'allume, ben, elle va s'éteindre vers 11h, 10h, ou à minuit. Et puis, si ça a été une journée ensoleillée, ça va s'éteindre à 5h du matin. Donc, mais c'est une grosse amélioration. Et pour les gens, la sécurité, c'est un des éléments importants. Ben, la lumière apporte la sécurité. Maintenant, ça n'empêche pas d'avoir des réalités d'insécurité. Des gens qui sont kidnappés, des gens qui sont tués. Il y a un religieux, je pense que vous n'avez entendu parler, qui a été tué il n'y a pas longtemps parce qu'il sortait d'une banque et puis il y avait de l'argent, semble-t-il. Puis les gens l'ont tué, puis ils sont partis avec son sac, mais l'argent, il l'avait dans ses poches. Donc, ils l'ont tué pour rien. Donc, ils ont encore la sécurité. Le Canada travaille ici pour cette réalité de sécurité, pour combattre la sécurité. Le Canada aide à construire une prison, aide à construire des commissariats, aide la formation des policiers aussi, des policiers de la gendarmerie, de la police de Montréal, de Québec aussi, police provinciale aussi, qui vont là pour former les policiers. Donc, et je pense que c'est un très bon placement. Je dirais pour la réalité un peu de la vie sociale, c'est un peu ce que peut-être j'aurais certainement d'autres choses à ajouter, mais je voudrais parler davantage de mon travail. Mon travail, c'est si je suis là pour la communauté, je suis là pour, je dirais, comme supérieur de la maison, mais c'est pas le titre, c'est dans la maison, on reçoit des jeunes laïcs de 20 ans, 22 ans, 23 ans, qui veulent devenir jésuites. C'est leur projet. On les fait venir chez nous pour, je dirais, pour vérifier si c'est vraiment leur place. Et puis, donc, pendant un an, ils sont en stage. Et à toutes les fins de semaine, ils retournent dans leur famille. Donc, ils n'appartiennent pas à la communauté. Ils viennent chez nous, et ils demeurent avec nous, ils couchent avec nous, il y a les liturgies avec nous, l'Eucharistie, et puis les repas ensemble. Donc, il y a une vie de communauté, ils participent à notre vie de communauté, mais en même temps, on les envoie enseigner dans des écoles. Ils enseignent à des enfants de quatrième année, troisième, quatrième année, ils enseignent le français aux enfants, et c'est des écoles d'enfants pauvres. Le groupe Communauté Sainte-Marie, un groupe communautaire de personnes, c'est pas une communauté stricte, c'est une communauté civile, si on peut dire, mais beaucoup animée par la foi, puis il y a une école, et il y en a deux qui enseignent là, des enfants pauvres, et dans l'après-midi, il y en a qui s'en vont travailler, enseigner des sœurs de Bourdon, là. Saint-Louis de Bourdon, Saint-Louis. Bon. Et dans l'avant-midi, c'est ça, là, une belle école, tout organisé. Et puis dans l'après-midi, ils font venir des enfants pauvres, mais qui le matin vont aller travailler dans les maisons. c'est ce qu'on appelle d'une part des restes avec, oui, et puis, ou bien c'est des gens de non plus élégants que ça, je ne me souviens pas souvent de nous. Et puis, ben, Panama me dit, ces enfants-là, c'est peut-être des enfants de entre 12 à 15 ans, 16 ans, ben, ils vont chercher l'eau, ils vont chercher les légumes, puis ils vont nettoyer le terrain, les garçons, les filles, j'ai oublié le nom, et dans l'après-midi, ils vont étudier. Alors, c'est magnifique pour ces enfants-là. Mais en quatrième année, tu peux avoir des élèves de 14 ans, 15 ans, et puis peut-être un peu moins intéressés. Mais pour nous, nos jeunes, c'est une expérience extrêmement importante d'être en contact avec des enfants. Et puis l'année dernière, là, une petite fille, son père s'était suicidé. Sa mère était morte, puis le père était découragé, il s'est suicidé. Imaginez, là, bon. Alors eux, les jeunes chez nous ont été en contact avec ces lieux de misère. Ils reçoivent une formation spirituelle, il y a un père qui les accompagne et puis qui fait faire des récollections. Et puis, ils reçoivent des cours d'espagnol parce qu'ils auront à étudier en espagnol. Et puis moi, ben, je leur parle des jésuites. Il ne faut pas s'en étonner. Mais je parle aussi de Jean Vanier et de l'Arche. Mais ça, il ne faut pas s'en étonner non plus, parce que, bon, je pense un peu mes valeurs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, c'est des jeunes de 20 ans, moi j'ai 77 ans, mais entre les deux, il y a comme une familiarité, nous autres, on appelle ça une sorte de compagnonnage, compagnon de Jésus, mais aussi, c'est entre nous autres. Bon, ces jeunes-là sont acceptés à la fin de l'année. Il y en a quatre qui rentrent au noviciat. Et puis après ça, ben, c'est deux ans de noviciat, quatre ans de philosophie, deux ans de... Mais ces jeunes-là, je dirais, ils sont engagés un peu dans la même lignée, la même famille que nous autres. Et cette année, d'une façon spéciale, on a eu un grand, grand rassemblement. Puis j'ai pu voir des gens que j'avais connus la première année, puis qui avaient 22, 23 ans. Maintenant, ils ont fini leurs études. Il y en a quelques-uns qui sont ordonnés prêtres. Puis il y avait une fierté, je vous avoue, de retrouver ce monde-là. Je les ai connus à 20 ans et 22 ans. Puis là, c'est 30 ans, 32 ans, ils ont fait des études sérieuses. Puis là, je prenais conscience que j'étais en train de construire Haïti. J'ai travaillé pour l'avenir d'Haïti. Puis là, c'était comme si ça me permettait de toucher. C'est vrai, je travaille pour Haïti, pour le futur d'Haïti, parce que là, ces jeunes-là, maintenant, il y en a quelques-uns qui sont jeunes prêtres, qui n'ont pas fini la formation jésuite, ils vont prendre encore 3-4 ans. Mais il y a une fierté, ça, j'imagine que ça doit être comme des parents qui voient leurs enfants, là, qui finissent les études, qui avancent, et puis ben, c'est un peu comme ça. Je travaillais pour l'Église et pour Haïti. Je ne dirais pas travailler pour la compagnie de Jésus ou la communauté, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'Église d'Haïti. Un peu comme, bon, je reviens pour le pape, que le pape soit Jésus, c'est bien, mais le plus important, c'est qu'il soit, je dirais, au service de l'Église, avec l'esprit de Saint François, puis avec l'esprit de Saint Ignace. Bon, ça, je reviendrai peut-être sur François tantôt. Donc, il y a pour moi, ça c'est mon travail pour une part dans la maison, mais aussi pour moi, je m'occupe aussi de comptabilité. Je disais à quelqu'un, moi j'ai choisi d'être avec les pauvres, je suis allé un peu en basse-ville et tout ça. Puis voici que quand ils me nomment en Haïti, je suis responsable de la comptabilité des finances. Je n'ai jamais fait autant de chèques que depuis que je suis là. Bon, ça c'est le paradoxe, hein. On choisit la pauvreté, puis bon, on brasse de l'argent. J'espère que je brasse bien l'argent. Mais aussi, il y a l'argent qui m'est donné en propre pour moi. Et mon professionnel me permet d'utiliser cet argent-là pour les personnes qui sont dans le besoin. Et ça, pour moi, ça me donne un contact avec le milieu très réel d'Haïti. Bon, en Haïti, tu as des milieux très, très pauvres. Très, très pauvres, comme Cité Soleil. Tu as déjà des communautés bien engagées dans ces milieux-là. Ceux avec qui que j'aide, c'est davantage de milieux un peu plus économiquement capables d'autonomie. on pourrait dire c'est de la classe moyenne, mais très petite. Les, particulièrement, c'est des femmes qui sont capables de travailler, de faire vendre la nourriture sur le bord de la rue, ils vont acheter une grosse quantité de bananes, une grosse quantité de charbon, puis ils vont vendre ça en petites portions, puis ça leur fait des revenus. Et ces revenus-là leur permettent de se nourrir, payer la nourriture, payer le loyer, puis payer les vêtements. Donc, c'est un milieu qui sont capables d'une certaine autofinancement, mais pour s'y envoyer des enfants à l'école, une école de qualité, ils n'ont pas l'argent pour ça. Alors, mon première insertion en Haïti, ça a été pour aider justement des familles pour envoyer des enfants à l'école. Et une école de qualité. Bon, une école de qualité, ça coûte une certaine somme d'argent, et puis bon, c'est bien comme ça. Mais ça aussi, c'est travailler pour l'avenir du pays. Hein. Alors, quand t'envoies un enfant à l'école, ben, lui, il va être capable de lire comme il faut, il va être capable de compter, il va être capable de parler français. Et celui qui parle français est beaucoup plus capable d'avancement et d'aider son pays. Capable d'études universitaires, c'est assez fort. Donc, je dirais, ça a commencé comme ça. Mais quand vous êtes avec tête d'une famille pour l'école, ben, c'est un petit garçon, une petite fille qui a bon, 8 ans, 10 ans, 12 ans, et puis ben, là, tu connais la maman, et puis, mais bon, ben, à un moment donné, les enfants sont malades, la maman est malade. Bon, j'avais un petit peu d'argent pour aider pour la nourriture, pour les soins de santé. Mais à mesure qu'on avance, on est comme lié des familles, et c'est pas. Il y a comme une sorte de proximité, et plus ça avance, plus ces soins-là nous engagent davantage. Puis, bon, payer des médicaments pour une petite maladie, par exemple, mais quand arrive quelque chose de plus grave, des opérations ou des hospitalisations, c'est plus. Ça a été pour moi un lieu de souffrance. Parce qu'en particulier à la fin de l'année, bien, mes coffres étaient vides, mais les familles que j'aimais, il y avait encore des choses au niveau de la santé, puis je n'étais pas capable d'apporter le soin qu'eux auraient souhaité avoir. C'est un peu comme. Là, j'ai vécu un peu ce qu'une mère de famille peut vivre quand il y a son enfant qui est malade, puis qui n'est pas capable de rien faire parce qu'il n'y a pas d'argent. Alors ça a été une de mes souffrances, on peut dire, en particulier à la fin de l'année, parce que mes courses sont professionnelles. Mais tout le monde va dire, oui, mais t'es pas la Providence, t'es pas le bon Dieu, t'es pas Jésus. C'est vrai, t'es pas là pour sauver le monde. Mais reste que je touche une limite. Une limite qui intellectuellement, je le sais, mais il y a comme un lien qui fait que c'est une limite, mais c'est difficile à porter parce que il y a un lien d'amitié avec ces gens-là. C'est un peu comme si je les vois souffrir plus pas simplement la maladie, mais l'incapacité que les parents ou les familles ont de faire soigner. Si je n'ai pas d'argent pour eux, ils ne feront pas soigner comme il faut. Bon. Mais aider les gens aussi, c'est l'occasion pour moi d'une joie. Et pas simplement d'une joie de donner de l'argent. Et c'est un peu comme si je suis témoin de quelque chose très spécial. C'est un peu comme si je suis témoin d'une part la générosité des gens, et puis l'autre part des gens qui sont dans le besoin. Et puis c'est un peu comme si je suis à l'intérieur, puis je vois passer, non pas la balle, mais je vois passer des sommes d'argent. Et la plupart du temps, à la fin de l'année, ça s'équivaut. Mais plus que ça, c'est pas une question d'équilibre financier, mais je découvre comment les gens sont généreux. Les gens se sont laissés toucher. Évidemment, au moment du tremblement de terre, c'était évident. Mais même encore, bon, j'envoie des informations, les gens se laissent toucher. Ça, c'est une grâce. C'est une grâce pour ces personnes-là de se laisser toucher. Prenons ce qui est arrivé au lac Mégantic. Moi, ça me frappe. D'une part, la catastrophe, hein, 50 morts, et puis ça veut dire combien de souffrances, de deuil et puis tout ça. Puis d'un autre côté, c'est la générosité en argent, de générosité en personne. Il y a une solidarité. Il y a entre les deux mondes. L'homélie que le prêtre fait était dans ce sens-là. Le cortège de la mort, c'est dans l'Évangile, la veuve qui a perdu son fils, qui est accompagnée de gens qui plaignent tristesse parce qu'ils voient la veuve avoir ces cortèges de la mort qui sort de la ville et qui rencontre le cortège de la vie avec Jésus. Jésus va redonner la vie au fils. Le curé dit, mais c'est la même chose, hein. Au lac mégantique, il cortège la mort avec toute la mort, mais il y a le cortège des bénévoles qui viennent apporter le soutien, qui viennent dire aux gens de mégantique, ben, la vie n'est pas finie, et puis vous pouvez compter sur les autres, et s'approcher des réalités de souffrance, de mort, c'est pas évident. Vous savez, combien de fois les gens vont se sauver quand il s'agit de deuil et puis de souffrance, tandis que tu as des gens qui se sont approchés de ces familles endeuillées. Probablement qu'à partir de ça, il va y avoir des amitiés entre ces familles-là. Il y a de la vie dans ça. Bon, moi, ce que je veux transposer en Haïti, je dirais que c'est un peu la même chose. D'un côté, je vois la générosité. Et une générosité qui est... Tu sais, c'est pas la même chose. Je te donne l'argent à toi, là, je te connais. Là. Mais les gens donnent l'argent à moi. Eh bien, ils ne savent pas où est-ce que ça va. Ils ne savent pas. Une solidarité qui est un peu comme anonyme et qui s'envole en Haïti. Et les gens d'Haïti viennent me dire, on vous remercie beaucoup. Ben, je ne dis pas moi, hein, moi je suis juste un canal. Remercier le bon Dieu et les bienfaiteurs. Ah oui, on remercie beaucoup, beaucoup. Et ça, pour moi, c'est... Il y a de la joie. Tu sais, on va dire, dans le monde, ça va mal, dans le monde, regardez, les gens sont égoïstes, ils pensent seulement qu'à eux. Non. Et c'est une aide qui est faite pour l'avenir aussi, qui construit Haïti. Donc, ça, c'est ma joie. L'autre joie. Mais la troisième joie, c'est le pape François. Maintenant, j'ai l'impression de me répéter parce que j'ai rencontré souvent des groupes et puis ça a été un des sujets de conversation qui venaient très spontanément. Puis pas parce que c'était jésuite, c'est un peu comme si les gens, ils venaient nous dire, dans l'Église, c'est plus pareil. Il y a quelque chose de neuf, ça fait trois mois, puis on dirait que le climat est différent. Et puis moi, quand ça a été nommé, quand le pape a été nommé, il a choisi notre François, j'applaudissais. Parce qu'au fond, il y avait une référence à François d'Assise. Et puis j'étais content aussi qu'il y ait cette option-là. Mais ce n'est pas parce qu'il était jésuite que j'étais content. J'étais content parce qu'il annonçait une église pauvre et pour les pauvres. Toutes les sortes de pauvres. Hein. Il est arrivé avec une sorte d'ouverture. Pas simplement à l'univers catholique, pourtant et profondément, mais une ouverture à l'écuménisme, mais une ouverture à tout le monde. Il va prier pour tout le monde. Il y a une sorte d'ouverture, de largeur de vie. Il va s'adresser à tout le monde. Cette référence aussi au monde, et il le vit là ici, j'ai l'impression probablement que je me répète et que je répète des choses que vous connaissez, tous les gestes qu'il a posés dès les premières semaines de son pontificat. Quand il était le jeudi saint, par exemple, normalement, jeudi saint, le pape est à Saint-Pierre de Rome, dans la grande église, et puis il y a le geste du lavement des pieds. Puis là, il va laver les pieds de 12 hommes, comme ça, probablement qu'il est toujours mort. Sont fait astiquer les pieds, puis on met du parfum, puis tout ça, c'est incorrect, hein? Parce que c'est le pape. Alors lui, il a demandé d'aller vivre ce cérémonial du lavement des pieds. À l'arche, on comprend qu'est-ce que c'est l'importance du lavement des pieds. Hein? Il y a quelque chose qui passe là. Lui, il a demandé d'aller vivre ça dans une école avec des jeunes délinquants. donc des garçons et des filles. Et il y en avait les pieds de 10 garçons et de 2 filles. Et une des filles était musulmane. Et dans le lavement des pieds, ben, il va laver les pieds, il va embrasser les pieds. Pour je dirais, Rome, pour la tradition à Rome, c'est pas comme ça que ça se passe. Surtout pas laver les pieds d'une femme, surtout pas baiser les pieds d'une femme comme il le fait pour les autres. Ben, il y a quelque chose dans ça qui brise les murs, j'ai l'impression, et qui est un enseignement. Quand il est allé aussi au Brésil, il est allé dans une cité de favela, et puis il est allé aussi dans un lieu de jeunes, d'école de drogués, tout ça. C'est des choix, ça. C'est des choix qui, pour moi, sont des choix qui sont proches de l'Évangile, et c'est ce qui me réjouit. J'ai l'impression que ça avait joué aussi beaucoup le cœur de tout le monde ici. Il y a quelques jours, ça a été la fête de Saint-Ignace, et il est allé parler aux Jésuites à Rome. Évidemment, on était bien contents, c'était une sorte de famille, au fond. Puis, notre père général, quand il raconte ça, finalement, c'était comme un frère. Hein. Bien sûr, il était pape, il était bien blanc, mais c'est comme un frère. Et lui-même a dit, je suis de spiritualité ignatienne, formée par les exercices spirituels de Saint-Ignace. Et ça, comme pape, il le renie pas, au contraire, il le met en pratique. Mais qu'est-ce que dit aux Jésuites à ce moment-là? On sait bien d'être enfant, bien sûr, il a dit, je suis content d'être avec vous autres, et puis c'est une fête, et tout ça. Mais il a comme donné une sorte de, je dirais, de plan de vie apostolique pour les Jésuites. D'abord, il dit, les Jésuites, vous autres, les Jésuites, la chose importante, c'est que vous soyez attachés à Jésus. Bon, vous allez dire, oh, c'est bien normal, hein, compagnie de Jésus, et puis... Non, mais le pape vient nous dire que attachés à Jésus même, et puis, il va dire, attachés à l'Église. Ben, il dit la même chose, attachés à Jésus, puis attachés à l'Église. Mais il nous rappelle que nous, les Jésuites, on est appelés à aller à les frontières. Pas simplement les frontières entre l'Haïti puis la République dominicaine ou les frontières parce que c'est des pays de mission. Non, aller dans nos pays même, aller aux frontières. Aux frontières avec, je dirais, la pauvreté, les lieux de pauvreté, et être capable d'être au service de ces lieux de pauvreté. Puis parfois, en étant au fond. Imaginez, c'est ça. Aller aussi à la frontière avec ceux qui ne croient plus, qui se disent athées ou qui se disent indifférents, qui se disent « moi, ça m'intéresse plus ». C'est une frontière, ça. Vous le vivez, puis nous le vivons, ici. Et le pape dit « oui, quand on est à la frontière, il ne faut pas être assimilé. Il ne faut pas se laisser comme gagner par... Il faut être capable de transmettre un message qui va convertir l'autre ou changer l'autre, mais qu'on ne soit pas nous autres comme gagnés, convertis ou abandonnés. Il y a comme, quand on est à la frontière, il y a un défi d'être fidèle, fidèle à l'Église et fidèle à sa foi. Je ne sais pas si tout à fait si vous comprenez. Donc, c'est deux choses. Pour Jésus, pour les Jésuites, fidèle à Jésus, fidèle à l'Église. Et puis, il nous demandait d'être humble. Pourquoi est-ce qu'il demande ça aux Jésuites? Est-ce que c'est parce qu'il y aurait des dangers d'être orgueilleux? Oui, c'est vrai. Avec raison. Ah, je vous fais des grandes études, et puis, en fait, soyez humble. Et puis, je ne sais pas si c'était lié à l'humilité, mais il nous souhaitait d'avoir honte. Honte de nos limites et de nos péchés et de nos erreurs. Bon, c'est pas mal, ça ressemble pas mal à l'humilité, mais c'est le pape qui nous le dit. Et pas simplement le pape, mais pour nous, c'est un peu comme si c'était le pape qui est un de nos frères. Je veux dire, il y a une solidarité de famille, c'est comme si ça nous engageait encore plus. Donc ça, c'est pour moi, c'est une joie en Haïti ou ici, c'est la même joie que je retrouve d'ailleurs. Il y a des gens qui me disent, j'ai jamais autant été attentif à ce qui se passe à Rome que depuis sa domination. C'est comme tout le temps des nouvelles intéressantes à lire et puis, on me dit que la messe est à 2h30. C'est un peu ça ce que je voulais vous dire. C'est un mélange, c'est un mélange de joie et aussi un peu de tristesse parce que je vois que Haïti n'avance pas aussi vite que je souhaiterais. N'avance pas aussi vite que tout le monde souhaiterait. Mais pour être réaliste, le tremblement de terre arrive dans un pays qui était déjà désorganisé. C'est encore plus, on part d'encore plus loin. Mais il ne faut pas garder, il ne faut pas perdre confiance. Je distinguerais comme deux choses. Haïti, le pays, la structure économique, la structure politique, et les Haïtiens. Et je ne suis pas là, puis les religieux, puis nous autres, on n'est pas là pour changer la structure politique, économique. On va faire des choses pour aider la structure économique, politique, mais on n'est pas là pour changer ça. Moi, je ne suis pas là du moins pour ça. C'est ça aux Haïtiens. Mais les Haïtiens, par exemple, et les Haïtiennes et les familles, il y a quelque chose qui est beau à voir, c'est leur courage. Il y aurait bien des raisons. Mettez ces personnes-là ici, les gens vont dire, ça ne marche pas, ça ne va pas. Mais il y a bien des raisons pour eux autres de continuer à espérer. Continuer à espérer. Les gens vont dire, oui, mais écoute, là, les besoins sont tellement immenses, là, pourquoi là, tu vas là-bas? C'est tellement immense, ça ne changera pas. Et puis, je pense que c'est quelqu'un de Chevaux qui m'avait raconté quelque chose que j'avais lu, d'une histoire d'un petit enfant qui sur le bord de la mer, puis il y avait des écrevisses sur le bord de la mer, des écrevisses, mettons, et puis, il les rejetait à la mer. Et puis quelqu'un qui dit, ton travail est inutile, regardons ça, ton robot est jeté, il va toujours en venir d'autres. Mais le petit garçon disait, oui, mais ceux-là, là, ils vont être contents parce que je vais leur avoir sauvé la vie. Alors, c'est un peu la même chose. Au fond, aider avec l'aide que je fais, c'est un petit nombre de personnes, au maximum 10, 12 familles, peut-être une vingtaine d'enfants, c'est pas beaucoup comparé. Mais ceux-là, ils auront quelque chose de neuf et quelque chose. Leur avenir sera mieux organisé, préparé, tout ça. On prépare l'avenir pour ça. Puis aussi, votre thème l'an prochain, c'est l'espérance. On m'a dit, le thème, c'est l'espérance, après partage. Mais vous savez, quand une personne, une famille, reçoit de l'aide pour l'école, c'est un peu comme si c'était un peu de lumière au bout d'un tunnel. Ça donne de l'espérance. Il y avait un jésuite, il y a quelques années, qui célébrait la messe dans une chapelle, dans un milieu à la campagne, une chapelle où pas tellement loin de là, un jésuite qui offrait pour une œuvre de plantation, d'agriculture. Donc, c'est un milieu très modeste. Alors, le père célébrait la messe des jours saints, et le jeudi saint, il y avait du monde. Le vendredi saint, c'était plein, plein de monde, le vendredi saint. Et puis le jour de Pâques, pas beaucoup de monde. Mais le vendredi saint, les gens se retrouvaient dans Jésus, qui était souffrant, qui était crucifié, puis... Alors, c'est comme nous. Et c'est vrai que j'ai pu découvrir que la dévotion du chemin de croix est une dévotion importante. Les vendredis saints, les vendredis, dans toutes les églises, il y a des chemins de croix, et puis... Mais la question qui se posait, c'est comment ça se fait que le dimanche, la résurrection, c'est un peu comme si les gens sont moins concernés. Puis la question qui se posait, c'est quelle expérience ces gens-là, de milieu agricole, pauvre, quelle expérience qu'ils ont de résurrection? Et puis mon ami Gisèle partageait ça avec d'autres personnes de Port-au-Prince. Et puis, on dit, c'est vrai, on n'a pas beaucoup d'expérience de résurrection. Qu'est-ce qu'on peut faire? Fait qu'ils ont pensé de faire des petits cadeaux, un petit sachet dans lequel tu vas avoir des surettes. Les surettes, c'est des bonbons. Des petits bonbons. Et puis, on va mettre des pièces, des gourdes, une gourde, deux gourdes, trois gourdes, mais des pièces neuves, toutes reluisantes. Puis, on met ça dans un sac. Et puis, on va donner ça le jour de Pâques. C'est ce qu'ils ont fait. Il n'y avait pas beaucoup de monde le jour de Pâques pour recevoir ça. Mais l'année suivante, il y avait beaucoup de monde le jour de Pâques. Mais au fond, c'est pas les surettes et les bonbons qui étaient importants. Même pas les pièces d'argent, bien sûr, on ne les jette pas. Mais l'espérance, c'est de prendre conscience que des gens, à Port-au-Prince, qui ne connaissent pas, et que les gens de Port-au-Prince ne connaissent pas, qui ont pensé à eux. Et c'est ça l'espérance, de faire l'expérience qu'il y a des gens qui pensent à moi, et qui m'aiment, je ne les connais pas. Et c'est comme une lumière, l'espérance. Et je pense que c'est pour elles, pour ces personnes-là, pour les familles-là, c'est ça, de savoir qu'il y a du monde quelque part qui pense à elles, dans leur difficulté, leur souffrance, leur limite. Ben, c'est ça l'espérance. Je pense qu'il ne l'exprime pas comme ça, mais c'est comme si la vie devient plus lumineuse parce qu'ils sont aidés, ils ont été aidés pour des choses précises, l'école, parfois les soins de santé. Et ça donne la lumière à un petit nombre de personnes. Mais pour ces personnes-là, ça éclaire. Hein? Et aussi, pour les personnes qui sont généreuses aussi, ça éclaire le cœur. Ça rend le cœur plus léger, ça rend le cœur plus large. Alors pour moi, c'est la lumière et de la joie. Je suis en Haïti, mais en même temps, il y a quelque chose qui est une relation entre Haïti et le Canada qui m'apporte la joie. Le monde n'est pas si mauvais que ça. Il y a encore du bon monde. Et puis, il y a du bon monde dans des gens qui ont apparemment le cœur un peu sec, puis que devant certaines misères, qui vont avoir un cœur qui va se laisser toucher. C'est ça pour moi qui est la force d'un changement, se laisser toucher le cœur. Ça peut être par des prières, là, hein, on est touché, ou une contribution, ou... Puis parfois, c'est une situation d'urgence qui est vécue quelque part, ça me fait découvrir des situations de réalité, de pauvreté près de chez moi. Donc, je dirais pour moi, l'espérance, c'est quand les gens acceptent de partager, puis acceptent de se faire toucher le cœur. Bon, c'est à peu près tout. Je ne sais pas si y a du temps pour des questions, mais c'est toujours un peu embêtant pour des questions. On répond à un, mais il y a peut-être... Mais il me dit non. Là-bas, c'est avec raison parce que je pense qu'il y a des gens qui doivent partir durant le temps de la messe pour les transports. Voilà, merci. Et puis on se donne rendez-vous à la messe.